Bien, bonjour. Alors, on m'a demandé de me présenter. Alors, c'est assez. Enfin, tout d'abord, je vous remercie de la confiance que vous nous témoignez à notre église, puisque finalement, je représente l'église de Caluire. Alors, Caluire, Rieux, on déménage régulièrement. On est un peu des SDF. Pour l'instant, on est à Rieux, par la grâce de Dieu d'ailleurs. Mais voilà, c'est vraiment une joie en fait pour moi. Pardon, plus fort. Alors voilà, on entend mieux, je suis un peu plus près. Donc c'est vraiment une joie pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. J'avoue que je crois que je ne connais pas grand monde, mais heureusement il y a Samuel qui est là. Et sa voisine avec qui on a eu l'occasion de faire connaissance à travers la chorale. Et en fait, cette rencontre aujourd'hui, c'est un échange de chair qui nous a été proposé. Je pense que vous connaissez Jean Patin. Et à mon avis, c'est grâce à lui que ces choses-là... arrive aujourd'hui. Derrière lui, il y a bien sûr le Seigneur, mais c'est des liens comme ça qui sont tissés assez naturellement entre nos deux églises grâce à Jean. Et donc nous sommes une petite église avant la Croix-Rousse, après à Caluire, maintenant à Rieux. Nous étions assemblés, association culturelle, jusqu'à il y a un peu plus d'un an. Et nous avons souhaité régulariser un peu notre situation en devenant association cultuelle, et on avait envie aussi de se rapprocher d'autres églises, de la famille des CAEF. C'est pour ça qu'aujourd'hui David Sutherland est chez nous. Donc merci de nous l'avoir, je ne sais pas s'il faut dire cédé ou en tout cas prêté pour cette matinée, et les frères et sœurs là-bas profitent de lui, de sa présence. Donc merci. Et donc je suis aujourd'hui avec mon épouse Marie, sans qui je ne peux pas faire grand chose, donc merci à Marie de m'accompagner, d'être là avec moi. Et on m'a proposé donc de prendre la parole, mes frères m'ont envoyé, et c'est vraiment une joie. J'espère qu'on va pouvoir passer un bon moment à partager cet évangile, cette partie de l'évangile de Marc, histoire que nous allons étudier aujourd'hui est rapportée par trois évangélistes, Matthieu, Marc et Luc. Ils ont une approche un peu différente de cet événement. Donc l'histoire se déroule à l'est du lac de Génézareth. On va passer une diapo pour simplement situer, ce sera la seule diapo pour aujourd'hui, mais ça permet parfois de resituer. Auparavant, cette région était occupée par la tribu de Gad, et puis suite aux conquêtes d'Alexandre le Grand, les Grecs en sont emparés, et il y a une alliance entre 10 villes, dont Gadara, Gézara, et ça a formé donc cette région qui s'appelle la Décapole. Une de ces villes s'appelle Gérasa, elle est située à peu près à 50 km dans les terres par rapport au lac de Génézareth, donc de la mer de Galilée. Et une autre ville se situe à une dizaine de kilomètres de la côte, et c'est Gadara. C'est pourquoi on entend, selon les évangélistes, ils parlent des Gadaréniens ou des Géraséniens. Mais c'est bien la même histoire qu'ils nous racontent. Et oui, merci. C'est bien de la même histoire qu'il s'agit dans chacun des évangiles, c'est le même épisode. Et c'est à l'époque où l'histoire se déroule, et bien c'est sous la domination romaine. Et cette région est principalement occupée par des païens, ce qui explique qu'on y élève des cochons. Et pourtant, il y a quand même une forte communauté juive. Voilà, donc pour resituer un petit peu le contexte géographique et historique de notre histoire. Et je vais enlever la diapo. Voilà. Puisque c'était juste pour l'introduction. Donc je vous propose d'ouvrir votre Bible en Marc, chapitre 5. Et avant d'aller plus loin, je vous rappelle que dans le chapitre précédent, on a eu ce récit de la traversée de la mer de Galilée, et les disciples viennent d'essuyer une tempête. À leur grande surprise, Jésus a réussi à mettre fin à la tempête simplement par une parole. On va lire la première partie du chapitre, l'histoire de ce démoniaque qui va être délivré. On ne va pas lire la fin du chapitre, mais je vous rappelle que après l'épisode qui nous intéresse aujourd'hui, Jésus va guérir une femme qui était malade depuis 12 ans et dont l'état s'aggravait malgré les soins onéreux des médecins. Et il ressuscitera aussi la fille de Jairus. Mais ce sur quoi nous allons nous concentrer aujourd'hui, c'est l'histoire de cet homme, ou de ces deux hommes. Matthieu parle de deux hommes qui sont possédés, mais Marc et Luc s'attardent seulement sur un des deux, et ils nous donnent des détails sur ce qui lui arrive. Et on va voir qu'à travers cet épisode de la vie de Jésus, le Seigneur cherche à enseigner un autre aspect de sa personne. Il va leur montrer sa pleine autorité sur les puissances démoniaques. Et c'est quelque chose qui peut nous faire du bien d'y réfléchir et de nous attarder un petit peu sur cet aspect-là. Alors lisons le passage. Donc Marc 5 au verset 1. Ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint en devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu des fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et cria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut ? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et lui demanda, « Quel est ton nom ?»« Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Et ils le prièrent instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient les démons, le prièrent disant « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita dans les pentes escarpées de la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville, et dans les campagnes, les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu légion, assis, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et aux pourceaux. Alors, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit « Va, dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. On peut se poser des questions sur les intentions du diable parfois, mais ici, je crois qu'elles sont comme dévoilées. Cet homme qui est possédé d'une légion de démons ne peut faire autre, il ne peut lui arriver que, rien d'autre que ce que le diable voudrait nous faire. Nous constatons que cet homme est, alors, selon les évangélistes, ils apportent des petits détails. Donc, Luc, par exemple, dit que c'était quelqu'un de la ville. Donc, c'était un habitant du coin, c'était un habitant du pays, cet homme qui est possédé. On ne sait pas pour quelle raison il est possédé, mais on sait simplement que c'est quelqu'un d'ici. Luc précise aussi qu'il était nu depuis longtemps. Et il me semble qu'on peut voir là l'intention de notre ennemi spirituel qui veut nous humilier, qui veut nous avilir. Il ne vit pas dans une maison, c'est aussi Luc qui le précise, mais il vivait dans les ténèbres, dans les sépulcres, qui étaient considérés comme un lieu impur. Voilà où le diable veut amener l'homme sur lequel il a une emprise. Il était contraint de cohabiter avec les morts, avec la mort en permanence. Jour et nuit, il était dans les sépulcres et dans les montagnes, ce qui signifie qu'il n'avait pas de repos. Il n'y avait aucun confort pour cet homme-là. Luc précise même qu'il était entraîné par le démon dans les déserts. Et vous savez que dans le désert, c'est pas très agréable non plus. C'est plutôt synonyme de souffrance physique, la faim, la soif. Et en général, on est plutôt seul. Il crie, il est furieux, nous dit Matthieu. On l'imagine hurlant comme une bête et agir avec méchanceté au point que les gens avaient peur et ils évitaient de passer dans la région. Il nous est précisé qu'il se meurtrissait avec des pierres. Et cela nous fait penser à une automutilation, une sorte de perversité que l'ennemi développe chez cet homme-là. Et du coup, ça se fait lui-même du mal. C'est quelque chose qui est terrible. Et puis, ce qui est surprenant aussi, c'est que cet homme possédé a une force surnaturelle. Il a une force telle qu'il va briser des chaînes en fer et des fers qu'il a aux pieds. Et personne n'a réussi à le lier ou à le dompter, selon les traductions. C'est une force qui lui est étrangère, qui le domine, il ne peut pas agir de lui-même. C'est quelque chose qui va contre sa propre volonté. Et aucun homme n'a le pouvoir de libérer cet homme-là. Comme les gens en avaient peur, ils ont essayé de le lier, mais en réalité, ils n'ont fait qu'aggraver son cas, puisqu'ils ne pouvant pas l'aider à se libérer de ses chaînes spirituelles, et bien, ils voulaient l'emprisonner. Bien qu'il est, Matthieu précise que les gens, personne n'osait par là, il est donc haï, rejeté. Et on voit finalement un homme qui est dans une terrible détresse, que ce soit sur le plan physique, moral ou spirituel. On sent bien que le but des démons qui le possèdent, c'est essentiellement de l'habiller et de le détruire. Je crois qu'il nous faut avoir conscience que c'est vraiment, je ne sais pas pourquoi à ce point-là, mais c'est vraiment ce que cherche notre ennemi commun, le diable, qui s'est révolté contre Dieu et qui voudra toujours nous humilier, nous dépouiller, nous dégrader, nous isoler, nous faire souffrir, nous terroriser. Toutes ces ruses pour nous éloigner de Dieu et nous attirer vers lui n'ont pour objectif final que notre destruction. On a parfois l'impression de l'inverse, hein, parce que quand, pour nous séduire, il nous propose plutôt des choses sympathiques et agréables. Mais au fond, ses intentions sont dévoilées ici, je trouve, dans ce passage, de façon vraiment claire. Le Seigneur Jésus dira, enfin, c'est Jean qui nous rapporte les paroles de Jésus, et Jésus disait que le diable a été meurtrier dès le commencement. Et il a commencé par Adam et Ève, n'est-ce pas? En leur disant qu'ils ne mourraient pas, mais ils sont bien morts, et nous avec eux. Donc, ce passage, je trouve, est comme un avertissement de ne pas nous laisser séduire et de ne pas nous relâcher sur et de ne pas imaginer que le diable puisse avoir d'autres pensées que de nous faire du mal et de nous détruire. Ce qui est merveilleux en réalité, c'est de voir ensuite l'intervention du Seigneur Jésus et de voir combien sa parole est puissante. Et par une parole, le Seigneur Jésus va réussir à délivrer cet homme que personne n'a pu aider jusqu'à présent. Et cela nous montre qu'il y a une pleine autorité sur les démons. C'est difficile de savoir ce qui se passe vraiment. Est-ce que c'est cet homme en souffrance qui a couru de lui-même vers Jésus en espérant une délivrance, mais est-ce que réellement la renommée de Jésus était déjà arrivée jusqu'en Décapole? C'est pas certain. Ou bien est-ce que les démons, sentant la présence de Jésus, n'ont pas eu d'autre choix que de venir se prosterner, sachant que leur jugement était déjà arrêté? Et où finalement ils viennent plutôt discuter avec celui qui va les juger. Quand on voit la scène, Marc nous précise que Jésus avait donné un ordre à cet homme, au verset 8, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et la difficulté ne vient pas de la parole. Jésus n'a pas de difficulté en réalité, mais ce démon ou ces démons refusent d'obéir. Et à travers ses réponses et ses réactions, on voit un petit peu l'arrogance et la méchanceté de ce porte-parole des autres démons. Bien qu'il se prosterne, n'est-ce pas? L'homme se prosterne en tout cas, je ne sais pas si les démons le font, mais en tout cas le démon va appeler Jésus « fils du Très-Haut ». On pourrait dire « tiens, il le reconnaît quand même comme le fils du Très-Haut ». Et voyez-vous, quand il dit « qu'y a-t-il entre toi et moi ?» C'est un peu comme s'il disait « est-ce que j'ai des comptes à te rendre ?» Ah, et pourquoi pas? Il semblerait plutôt qu'il ait des comptes à rendre. Ne me tourmente pas. Imaginez un démon, ce démon qui est porte-parole de la Légion des démons, qui font tant de mal à cet homme et qui disent ne me tourmente pas. alors qu'ils sont en train de tourmenter cet homme depuis tant d'années, avec tant de cruauté. Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ? C'est un reproche, c'est Matthieu qui rapporte cela, c'est un reproche comme si le Seigneur était injuste en venant les juger un peu plus tôt que prévu. C'est quand même un peu posé, non ? Et ils ont une supplication à présenter à Jésus. Luc dit, ne nous envoie pas dans l'abîme. Ici, ils ne veulent pas être chassés hors du pays. Et ils ont une requête, envoie-nous dans les pourceaux. Je ne sais pas pourquoi, enfin, c'est un peu curieux cette histoire, n'est-ce pas ? Mais Jésus accepte. Auparavant, Jésus a révélé qu'ils sont en réalité nombreux, puisque en demandant le nom, simplement, en disant quel est ton nom, on ne sait pas non plus là aussi, enfin, j'ai l'impression qu'il demande aux démons quand même quel est ton nom, il va révéler qu'ils sont légions. Une légion, ça comptait à peu, ça dépend des époques, mais la légion romaine, il y avait entre 2000 et 4000 soldats, enfin, 4000 hommes en tout cas. Et ici, on voit qu'ils vont se précipiter quand Jésus va les chasser. Il accepte qu'il aille dans le pourceau. Il y avait au moins 2000 pourceaux. Si on imagine qu'il y avait un démon par pourceau, ça faisait au moins 2000 démons qui partent, qui sortent de cet homme. On avait Marie de Magdala qui en avait eu 7, c'était déjà pas mal. Mais alors là, 2000. On voit que dès que Jésus leur accorde cela, ils partent, ils vont dans les pourceaux, et les pourceaux vont se précipiter dans la mer et ils vont périr noyés. Moi, ça, quand je dis ça, ça me donne des frissons, parce que je me dis, mais pff, comment ça se fait qu'il n'ait pas tué cet homme ? Puisqu'à peine entré dans les pourceaux, ils les détruisent. Ils n'avaient pas d'autre but que de détruire. Mais je crois, enfin, c'est personnel, hein, mais il me semble qu'on peut penser, parce que c'est pas dit dans le texte, mais on peut penser que Dieu savait. Le Père savait que Jésus traverserait la mer un jour, qu'il essuierait une tempête et qu'il viendrait voir cet homme. Et il me semble que Dieu a dû interdire à ses démons d'aller plus loin dans le mal qu'il faisait à cet homme parce que Jésus devait venir le délivrer. Et s'il y a cette discussion avec le démon ou les démons, c'est pas tellement parce que Dieu veut nous faire découvrir qui ils sont, mais plutôt pour probablement que cet homme possédé puisse réaliser ce qui se passe, pour qu'aussi les disciples qui sont là, et nous, et les habitants du pays, et nous qui lisons l'histoire, nous réalisions la pleine puissance de Jésus sur ces démons. Avec une parole, il va réussir à chasser une légion de démons. Jésus n'a pas de difficulté, il donne un ordre. Sa victoire est absolue. Et le fait de voir les cochons partir et se jeter dans la mer, c'était comme la preuve que cet homme était vraiment libéré. Et pour lui, c'était une façon qu'il pouvait se dire « J'ai plus rien à craindre ». Jésus a donc tout pouvoir sur les puissances des ténèbres. C'est vraiment une bonne nouvelle, vous ne trouvez pas ? Et non seulement pour les disciples de l'époque, mais aussi pour nous. Car il nous est dit que nous avons à combattre contre ces puissances. Là, on peut réfléchir un instant et se dire, mais d'où lui vient ce pouvoir ? Aucun homme n'avait réussi à maîtriser ce démoniaque. Aucun homme n'avait pu l'aider, ni, j'imagine, en essayant de l'encourager, ni en le liant avec des chaînes. Mais juste avant, Jésus avait apaisé la mer. Pourquoi a-t-il pu apaiser la mer d'une parole ? Est-ce que ce serait parce qu'il est le Créateur ? N'est-ce pas lui, en réalité, qui a fixé une limite à la mer ? Un peu plus tard, Jésus va ressusciter la fille de Jaïrus et guérir cette malade. Pourquoi peut-il le faire ? N'est-ce pas parce qu'il est le prince de la vie ? Pourquoi a-t-il autorité sur les démons et leurs chefs ? Enfin, au moins sur les démons aussi, probablement sur leurs chefs par déduction, parce qu'il est le juste juge, celui qui juge toute rébellion avec justice. Et les démons le savent bien, d'ailleurs, ils sont venus vers lui, le sachant, en demandant clémence, on voudrait aller dans les cochons. Ils sont finalement partis ailleurs, j'ai l'impression. Ce qui veut dire que Jésus est donc bien Dieu incarné. Jésus est bien le Fils, la parole, faite chair. Et Jean nous affirme ceci dans au chapitre, c'est dans 1 Jean, je vous donne la référence, ne la cherchez pas, 1 Jean 3:8. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Voilà pourquoi il est venu. Le Fils s'est incarné pour détruire des œuvres du diable. Et il a toute autorité pour le faire. Mais ce qui est merveilleux, c'est que Jésus peut faire bien plus que délivrer d'une légion de démons d'une simple parole. En réalité, il veut nous délivrer, et il peut le faire, de toute accusation du diable. Parce qu'aujourd'hui, parmi nous, je ne pense pas ici qu'il y ait beaucoup de gens possédés, n'est-ce pas? Mais par contre, on est tous tentés. Et on est tous en lutte avec ces êtres spirituels qu'on ne voit pas, et heureusement. Mais malgré tout, c'est bien quelque chose que nous vivons quotidiennement. Et ce qui est merveilleux, c'est que Jésus peut nous délivrer de toute accusation du diable et des conséquences de nos péchés contre Dieu. Et pourquoi peut-il le faire? Parce qu'il a accompli parfaitement la loi, parce qu'il s'est substitué à nous sur la croix afin de porter notre juste jugement, parce qu'il est mort à notre place, comme nous l'avons rappelé tout à l'heure, comme nous l'avons aussi reconnu et accepté en prenant cette coupe et ce pain qui nous rappelle son sacrifice. Nous devions mourir à cause de nos fautes, mais Jésus l'a fait à notre place. Et ainsi, il nous libère de toute condamnation, de toute accusation. L'ennemi ne peut plus rien contre nous. Je vous propose de chercher ce passage, Colossiens 3, 13, qui je trouve est tellement rassurant aussi. Là, je vais demander à quelqu'un de lire, si ça ne vous dérange pas. Colossiens 3, 13 à 15.
Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre à l'autre, pardonnez-vous réciproquement.
Je ne pense pas. Colossiens
3, 13.
Pardon, alors je vais vérifier une réponse. Désolé. Merci beaucoup. Désolé pour l'erreur. Et on va continuer. Cette fois, je vais vérifier la référence. Aussi, 2, 14 à 18.
Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable.
Oui,
ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient tous retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qui vient en être, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à son frère, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le salut de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car, du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés.
Combien ces versets sont encourageants, merveilleux et édifiants. Vraiment, nous n'avons plus rien à craindre. Le Seigneur veut nous aider. vaincre toutes les séductions du diable qui peut mettre en route toute son armée. Le Seigneur nous donne la victoire. Il nous demande simplement de bien nous armer, et vous savez que l'apôtre Paul fait cette description de l'armure du chrétien dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 6. Il nous invite à prier sans cesse en étant revêtu du casque du salut, en prenant le bouclier de la foi, en ayant en main l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, en ayant cette cuirasse de la justice, cette ceinture de la vérité, et au pied le zèle que donne l'Évangile. Et c'est là notre responsabilité, mais en réalité c'est acquis la victoire. Et le Seigneur vraiment veut que nous soyons convaincus qu'il est absolument tout puissant sur les autorités, sur les puissances démoniaques, et que nous n'avons pas à les craindre. Et si on regarde quelle merveilleuse délivrance pour cet homme, les gardiens, donc c'est dans les versets, toujours on revient dans Marc 14 à 17, on a cette description où les gardiens du troupeau ont peur en voyant ce qui se passe. Alors je ne sais pas s'ils ont peur surtout à cause des cochons ou surtout à cause de ce démoniaque qui est libéré. Mais en tout cas, ils vont en parler à la ville, ils en parlent partout où ils passent dans la campagne, et les gens en viennent pour vérifier. Ils viennent pour constater les faits, et alors ils découvrent un homme qui est transformé. Ils découvrent un homme qui est assis, Luc précise qu'il est assis au pied de Jésus, qu'un homme qui est habillé, il est vêtu et il est dans son bon sens. Et là, je trouve que c'est vraiment l'œuvre de Jésus. C'est ce que fait Dieu avec nous. Il nous invite à prendre du repos à sa vie. Il nous invite à être en paix avec lui, à retrouver la paix avec notre Père. Il nous redonne notre dignité. Mais plus encore, il nous revêt de sa justice à lui. Et il nous permet de pratiquer des œuvres qui seront ensuite quelque chose de glorieux aux yeux de Dieu. Et puis cet homme, il est dans son bon sens. Il est maître de lui-même. Il est capable maintenant de choisir ce qu'il va faire, de choisir qui il veut suivre. C'est un homme totalement libéré. Et si on y réfléchit, c'est aussi ce que Dieu veut faire en nous par le Saint-Esprit. Dieu veut nous libérer de toute influence démoniaque, de toute influence mensongère. Et si nous nous laissons bien habité par le Saint-Esprit, qui ne nous forcera jamais, qui ne nous possédera jamais, alors nous allons porter des fruits tellement opposés à ce que le diable voulait nous faire faire. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Cet homme ne pouvait pas exprimer d'amour ni en recevoir. C'est la joie. C'est Dieu veut nous rendre joyeux, il veut nous rendre heureux. C'est la paix. Personne ne peut donner la paix que Jésus donne. Et c'est à nous de veiller à la garder. La patience, la persévérance, malgré les épreuves, les difficultés, je continue à marcher avec mon Dieu. La bonté, enfin, je peux utiliser mon corps. On a dit qu'on n'était pas un corps avec une âme, mais une âme dans un corps. Je peux utiliser mon corps pour faire du bien, pour user de bienveillance. Je peux avoir une foi qui grandit. J'ai peut-être eu des doutes dans le passé, mais avec le Saint-Esprit, ma foi va grandir. Je peux découvrir que Jésus domine sur les puissances démoniaques, mettre ma foi en lui et le voir agir et le voir me délivrer du péché de toute mauvaise influence. La douceur, quelle opposition avec ce que cet homme vivait, il criait, il était toujours en train de hurler dans les montagnes, dans les déserts, à faire peur aux gens. Et là, cet homme, vu le choix qu'il va faire après, il va pouvoir user de douceur. Et il est maître de lui-même, aussi un des aspects du fruit de l'esprit. Être maître de moi-même. Je peux décider de ce que je vais faire, de ce que je vais dire, même de mes pensées, je vais pouvoir apprendre à les maîtriser, alors qu'elles s'envolent si vite. Et notre frère a parlé tout à l'heure, quand on perd la paix, c'est terrible. Et vous voyez, enfin, c'est merveilleux de voir ce que le Saint-Esprit veut faire avec nous. Avec Dieu, il n'y a pas de désert, il n'y a pas de solitude, il n'y a pas de sépulcre, il n'y a pas d'automutilation. Il n'y a pas de domination, il n'y a pas d'humiliation, il n'y a pas de torture de la part de Dieu. Pensons au « Dieu ne nous fera jamais de mal ». Pensons au psaume 23, je vous le relis. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit vers de verts pâturages. » C'est l'endroit opposé au désert. « Il me dirige vers les eaux paisibles. » cette eau calme où on trouve du repos, où on peut être s'abreuvé. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il est quand même question d'une vallée de l'ombre de la mort, mais là Jésus est présent. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Si Dieu permet des épreuves, donc des déserts malgré tout, des temps de solitude malgré tout, ce n'est pas lui qui les provoque, vous comprenez ? Il les permet. Si quelqu'un est tenté, qu'il ne dise pas que c'est Dieu qui le tente, car Dieu ne tente jamais personne, c'est ce que Jacques nous dit. Dieu permet des épreuves, mais il fixe des limites, et il empêche le diable et ses démons d'aller au-delà de ce que lui a décidé. Mais ce qui est vraiment merveilleux, c'est qu'il nous accompagne. Il est avec nous. Donc il a vraiment toute autorité sur les démons et les puissances néfastes, mais et il mesure chaque chose. En Corinthiens 10 nous dit, Paul nous dit, aucune tentation nous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter, parce que c'est bien ce que Dieu veut, c'est qu'on la supporte et qu'on la surmonte. Même si à la fin de l'épreuve, il y a la mort, comme à travers la maladie, comme ça a été évoqué à propos de notre frère. La victoire, c'est de rester dans la foi, c'est de garder la foi et de rester attaché à notre Seigneur Jésus. Dieu veut notre bien, notre bonheur, notre épanouissement, mais il ne s'imposera jamais. Vous remarquez que les personnes qui sont là voient le démoniaque libéré et ils ont peur. Ce qui est terrible, c'est qu'on a l'impression qu'ils sont insensibles à ce qui est arrivé à cet homme. On ne voit pas de joie de le voir libéré. Mais on voit que la crainte, la frayeur prend le dessus, et finalement, ils vont faire une demande à Jésus, c'est « va-t'en, pars, on a trop peur de toi, on ne veut pas que tu restes, quitte notre territoire. » Et les disciples aussi avaient eu peur dans la barque, ils avaient aussi été saisis d'une très grande frayeur. Et quand Pierre dira au moment de la pêche miraculeuse, « Seigneur, éloigne-toi de moi », il dit « pars, pars, va-t'en, je ne veux plus te voir ». Mais il prend conscience de son péché, il a peur, il est saisi de crainte parce qu'il voit que Jésus est un homme saint, mais il ne lui dit pas de le quitter à ce point-là. Il exprime simplement que lui est pécheur et il le confesse. Il me semble que parfois la sainteté de Dieu nous fait peur. Ce n'est pas une raison pour lui dire de partir. C'est plutôt à ce moment-là qu'il faut dire, « Seigneur, je constate que tu es saint et je mesure un peu plus mon péché. Je mesure que je suis bien plus bas que je croyais être. Mais s'il te plaît, pardonne-moi et reste. Reste avec moi. Moi, je veux rester avec toi. » Et si nous confessons nos péchés, alors il nous en libère. Et c'est ça, finalement, qui est merveilleux. Si Dieu nous montre sa sainteté, c'est pour nous libérer, pas pour nous écraser. Malheureusement, Jésus n'aura pas pu faire beaucoup plus pour ces gens-là. Mais par contre, notre ami démoniaque, libéré, donc il devient vraiment notre ami cette fois, eh bien lui, il demande la permission à Jésus de rester avec lui. Il dit, « S'il te plaît, j'aimerais rester avec toi. » Et c'est surprenant, Jésus dit, « Eh bien non, tu ne vas pas rester avec moi, je ne t'y autorise pas. Mais va dans ta maison, va vers les tiens, raconte-leur ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. » Il me semble que cet ordre, le Seigneur nous le donne aussi. Allons dans nos familles, vers nos amis, notre peuple, nos collègues de travail. Disons-leur ce que Jésus a fait pour nous. Disons-leur que Jésus est plus puissant que le diable et ses démons. Disons-leur ce qu'il fait, tout simplement. Il demande, il ne dit pas qu'il va faire une grande théorie sur les démons, leur religion, et ainsi de suite. Il dit, non, il va, dis ce que le Seigneur a fait pour toi, et parle-leur de la miséricorde de Dieu. Et il me semble que c'est vraiment quelque chose, une responsabilité que nous avons quand nous avons expérimenté la libération que Dieu apporte à l'égard du péché. Alors en conclusion, n'oublions pas les intentions du diable, résistons à ses mensonges, croyons à la pleine autorité de Jésus sur le diable et ses démons, saisissons-nous par la foi de l'œuvre de délivrance de Jésus, ce qu'il a fait à la croix pour nous nous libère totalement, mais aussi y compris à l'égard de l'influence du prince de ce monde. C'est pas, même si on n'est pas possédé, c'est vraiment merveilleux de savoir que Jésus a cette pleine autorité. Jésus avait dit, ces gens qui le rappellent, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en vous. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et il le dit pour nous dire qu'on va le vaincre aussi avec lui. Développons le fruit du Saint-Esprit par une communion plus grande avec Jésus en méditant sa parole et dans la prière, en étant assis à ses pieds, et enfin obéissant à ses ordres quand il nous demande de témoigner, de parler simplement de ce qu'il a fait pour nous. Que le Seigneur nous fortifie, nous encourage et conserve. Je ne vais pas aborder certains aspects, je dois simplement vous donner des références, par exemple. C'est un passage où, de temps en temps, les gens discutent, voilà comment il faut chasser les démons. Alors, personnellement, j'ai jamais, heureusement, mais bon, j'ai jamais été confronté à quelqu'un de possédé. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe plus. Vu les pratiques occultes qui se développent, je pense que ça va sûrement m'arriver un jour de croiser quelqu'un dans cette situation. Mais comme je n'ai pas d'expérience, j'en ai pas parlé. Par contre, j'ai eu l'occasion de lire un livre très intéressant que peut-être ça vous intéressera de lire, c'est « Comment affronter l'ennemi, s'armer pour le combat spirituel ». C'est John MacArthur qui l'a écrit. Je trouve que c'était assez équilibré. Voilà. Donc que le Seigneur nous fortifie et nous encourage avec cette pensée de la toute-puissance de Jésus sur notre ennemi. Merci.
Merci Philippe pour ce rappel que Christ a toute autorité sur nous-mêmes d'abord et sur les démons. On a commencé ce culte avec ce petit bout de verset que je rappelle, il conduira les brebis qui allaitent. Et je vous propose, avant de nous incliner pour la prière, ce premier verset du chapitre 8 dans l'Épître aux Romains. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. Amen.
Amen.
Prions. Seigneur, je te remercie de ce rappel que tu nous as fait dans cet évangile de Marc, de ce que tu veux nous voir libérer de ce qui peut nous raccrocher à ce monde perdu. Tu veux nous voir, nous libérer. Tu nous donnes l'opportunité, Seigneur, à la fois de démontrer ton autorité vers ces êtres maléfiques, afin que nous puissions être en adoration devant toi, Seigneur, afin que nous puissions recevoir pleinement ce sacrifice à la croix que tu as fait. Permets, Seigneur, que tout au long de cette semaine, nous gardions cette pensée que tu es celui, quelles que soient les circonstances, qui prend plaisir à nous faire surmonter nos épreuves, à nous réjouir de ce que nous pouvons nous appuyer sur ta main, à témoigner de ce que tu peux faire dans chacune de nos vies, Seigneur. Garde chacun, chacune, dans nos vies tout au long de cette semaine, Seigneur. Amen. Bon dimanche à toutes et à tous.